Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, bienvenue à tous. On va développer les titres de l'actualité, mais avant cela, les intempéries d'hier dans le Gard. L'état de catastrophe naturelle, je vous le disais, sera déclaré par le ministre de l'Intérieur. On va rejoindre tout de suite sur place à Huchot le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Bonsoir Stéphane. L'inquiétude monte à nouveau ce soir du côté des riverains, car la pluie est annoncée dans la soirée, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'auprès des riverains, on sent une crainte évidente pour ceux qui vivent dans les quartiers qui ont été durement touchés par la montée des eaux, les écoulements de boue, peur relative, car personne ne s'attend vraiment à un phénomène aussi violent que celui qui a été enduré hier. La décrue est bien amorcée. Il n'y a eu qu'un petit épisode pluvieux à la mi-journée, mais avec ces sols qui sont déjà gorgés d'eau, c'est une évidence. Des orages soutenus feraient inévitablement remonter les cours d'eau. Et c'est comme une menace qui reste dans un coin de la tête de chacun qui, depuis hier, armé d'une raclette et d'un seau, aidé de sa famille ou de ses voisins, fait tout son possible pour déblayer son salon, son jardin ou son garage, et toujours bien sûr un œil en direction de ces nuages menaçants. Oui, mais ici, dans le sud-ouest de Nîmes, le ciel tient bon en cette fin de journée.
Merci beaucoup Stéphane Burgat pour ces impressions, en tout cas de ce qui se passe sur place. On va écouter un pompier, toujours dans le Gard, sur la situation à laquelle il doit faire face. Écoutons-le avec Jeanne Cancard.
Il faut rester extrêmement prudent parce que les modèles météo peuvent changer très vite. Et on l'a d'ailleurs remarqué hier. Et les orages peuvent très vite se former sur la mer Méditerranée qui reste extrêmement chaude, avec des événements extrêmement actifs qui peuvent être très soudains. La moindre petite pluie peut générer des réactions parfois importantes. Donc pour l'instant, même si je dirais un dégraissement du dispositif est prévu en fin de cette journée, on garde quand même des moyens importants, d'abord pour poursuivre les missions qui restent à terminer, mais aussi pour être en capacité de faire face à potentiellement des averses qui pourraient encore toucher le département en fin de journée.
Voilà donc vigilance et prudence dans ces 8 départements qui sont toujours en vigilance orange dans le sud de la France. On va maintenant partir du côté du palais de justice de Paris où se déroule le procès des attentats du 13 novembre 2015 devant les assises spéciales. Le président aujourd'hui a accédé à la demande de certains avocats de la défense de laisser les accusés prendre la parole. Salah Abdeslam a à cette occasion dit froidement que le fait d'avoir commis des attentats n'avait rien de personnel. Sur place au palais de justice, Noémie Schulz.
Oui, Laurence, c'est Salah Abdeslam qui s'est exprimé en dernier et ses propos ont contrasté avec les prises de parole des autres co-accusés puisque plusieurs d'entre eux ont fermement condamné les attentats. Certains ont aussi eu des mots pour les victimes. Rien de tout cela chez Salah Abdeslam qui a parlé pendant quelques minutes assez calmement et apporté une justification très claire aux attaques parisiennes. Si la France a été prise pour cible, a-t-il expliqué, c'est à cause de l'intervention militaire française contre l'État islamique. Il a évoqué à plusieurs reprises François Hollande qui savait, selon lui, qu'il mettait en danger les Français. Et puis il a eu cette phrase très douloureuse pour les victimes qui étaient présentes dans la salle cet après-midi. On a visé la France, la population, les civils, mais en réalité, on n'a rien de personnel à leur égard. On a visé la France et rien d'autre. Salah Abdeslam qui a conclu ses propos en assurant ne pas vouloir choquer ni être provocateur, mais seulement être sincère envers des gens qui connaissent une douleur incommensurable. Cette intervention, elle a bouleversé les parties civiles qui étaient présentes. Certaines ont pleuré en silence, d'autres ont laissé éclater leur colère à la sortie de l'audience, évoquant l'indignité de Salah Abdeslam. Une jeune femme rescapée du Bataclan m'a confié son impatience de pouvoir à son tour prendre la parole, regarder Salah Abdeslam dans les yeux et lui faire comprendre, m'a-t-elle dit, les conséquences de ses actes.
Merci beaucoup Noémie Schulz, sur place avec Pierre-François Altermat. On va écouter la colère, la douleur de ces parties civiles, des victimes recueilli sur place au palais de justice.
Et de l'entendre vraiment là, sur le coup, ça m'a fait pleurer parce que je suis toujours quand même. Enfin, il y a beaucoup de fébrilité quand même de se retrouver toujours dans la même pièce que lui et de. Ça m'a fait pleurer, mais au fur et à mesure en fait, qu'il s'exprimait, je suis sortie très en colère. J'attends de lui répondre, j'attends de lui raconter ce que ça a été mon 13 novembre, ce que ça a été de voir des gens de mon âge mourir sur moi notamment. ce que ça a été d'être confronté à tout ça, et ce que ça a été de la vie pendant 6 ans après, de voir vivre avec le corps que j'ai aujourd'hui. J'ai 80 cm de cicatrices sur la jambe. Donc tous les jours, moi, c'est le 13 novembre, en fait. Donc voilà, ça va être de lui raconter ce que lui m'a fait et ce qu'il me fait encore aujourd'hui, en fait.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il, d'emblée, au bout d'une semaine de procès, il décomplexe le propos. Voilà, je vous ai visé, vous n'êtes pas responsable. C'est d'une facilité et d'une violence totale, quoi, vraiment, et un manque de respect absolu. Ça me met en colère, ouais, ça me met en colère, parce que, encore une fois, moi je suis là, quoi, je me révolte facilement, je suis en colère, je suis vivant, quoi, en fait. Il y a des gens qui sont plus là aujourd'hui, et... Enfin, la violence, quoi, la violence d'entendre ça, Ouais, je sais pas, j'ai pas les mots, quoi.
Voilà pour la colère et la douleur des victimes de ces attentats du novembre 2015 recueillis par Noémie Schulz et Pierre-François Altermat. Éric Diard, vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Je vous ai vu réagir quand, évidemment, on entendait ces victimes et surtout au propos d'Abdeslam qui dit « mais il n'y avait rien de personnel au fond dans tout ça ».
Salam Abdeslam est un monstre froid. Il est devenu un monstre froid. Avant de rejoindre ce plateau, j'étais sur la commission d'enquête sur les prisons. Et j'ai profité de la présence du directeur de l'administration pénitentiaire pour lui poser des questions, parce que cet homme est en prison, à Fleury-Mérogis, mais il faut savoir qu'il a continué à faire du prosélytisme alors qu'il est complètement isolé, mais il crie, il fait du prosélytisme de l'autre côté des fenêtres, il a reçu des ouvrages salafistes, donc c'est un homme qui s'est considérablement endurci en prison, il a même changé son apparence physique. J'ai vu ce matin une ancienne attachée parlementaire de Georges Fenech qui participe au procès. Il me dit, c'est plus le même homme. Et donc, Salah Abdeslam est un monstre froid. Je pense qu'on ne doit rien attendre de lui.
Et ne pas être choqué par ses propos, Christian Proutot, fondateur du GIGN. C'est leur technique aussi, aux terroristes, de continuer à semer la discorde et le chaos après leur acte.
Mais à défaut d'être une technique, c'est l'affirmation de ce à quoi ils croient et des raisons qui l'ont conduit à faire l'inacceptable pour nous et qui était justifié pour lui dans le cadre du combat qu'il menait. Et c'est là où ce qui est important, c'est de réaliser qu'au départ, c'est une petite frappe qui n'a pas fait grand-chose de terrible et qu'il est capable tout d'un coup de passer à travers une idéologie, un fanatisme, à quelque chose qui, bien sûr, nous, dans l'horreur qu'ils ont mise en place, nous glace le sang, mais qui doit nous poser, où on doit se poser les questions, comment on peut les amener, et la réponse fanatique n'est pas la seule, comment on peut les amener à ça? Il ne faut pas oublier qu'en dehors de lui, tous les autres étaient prêts à se faire sauter pour aller jusqu'au bout de la mission qui se sont donnée dans le cadre de l'objectif qui était de terroriser la France, puisque la France, selon leur explication et les raisons de leur acte, leur faisait la guerre. Et ça, je crois que Salah Abdeslam, c'est sûrement le moins bien placé, puisque de toute façon, lui, on ne sait pas encore si c'est sa ceinture qui n'a pas explosé, ou si c'est lui qui n'a pas voulu, et surtout, on n'a pas encore la position exacte en dehors du côté logistique qu'il a assuré, en reconnaissant sa voiture, etc., qu'il a effectivement fait. C'est presque un imposteur, si vous voulez mon sentiment. Il a entamé une démarche, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais maintenant, la tribune qu'on lui offre, il n'est pas illogique qu'il tienne le rôle qu'il pense maintenant devoir tenir et qu'on lui donne.
Tatiana Renard-Barzac, vous êtes choquée par les propos d'Abdeslam?
Bien sûr, comment ne pas l'être? Enfin, c'est terrifiant, cette banalisation, en fait, quelque part, de la violence, du terrorisme. Ce crachat au visage des victimes, je sais que les parties civiles, leurs avocats, depuis longs mois, les préparaient au silence. Et ils ne pouvaient pas s'attendre à cela. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une façon, en effet, de cracher au visage de tous ces gens qui se retrouvaient parfois avec des morts au-dessus d'eux, qui ont fait les morts pour ne pas être abattus à bout portant par des terroristes. Donc, bien sûr que c'est terrifiant. Par ailleurs, ce que vous disiez, c'est vrai. C'est vrai que ce prosélytisme qu'il fait depuis des mois, depuis 5 ans même en prison, il l'a fait aussi, en fait, aujourd'hui, pendant cette audition. Puisque quand il dit, en fait, que ce n'est pas du terrorisme djihadiste, mais que c'est un acte de musulman authentique, c'est de l'islam authentique, c'est absolument aberrant d'entendre cela. Donc oui, c'est absolument à vomir, en fait, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est une banalisation, encore une fois, du terrorisme. Et surtout, il faut bien le dire, quand il dit « je m'en suis pris à un pays », oui, il s'en est pris plus qu'à un pays, en fait. Il s'en est pris à l'Europe entière, puisque c'est tous les Européens, en fait, qui sont sentis touchés par ces attentats. Donc oui, c'est à vomir.
Jean-Claude Dacier,
Je vais lui répondre un peu sur le même ton, si je puis me permettre, en banalisant ses propos. Pour moi, c'est, comme tu l'as dit, un garçon qui a démarré dans la délinquance et dans le n'importe quoi. Je lui dénie absolument le titre qu'il s'est arrogé d'être un combattant de l'islam. Heureusement, l'islam, le vrai islam, c'est pas tout à fait ce que ce garçon, avec ses complices, a fait. Qu'il a eu ou non le courage de se faire sauter, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est que ses propos, politiquement d'une pauvreté, moralement, je crois qu'il se rend même pas compte de la portée de ce qu'il a dit.
Tatiana Arnaud-Mazac,
oui, c'est une mouille, mais enfin, heureusement, je lui répondrai encore une fois que d'abord, il ment sur les bombardements français, qui se sont toujours attachés, je le crois, à bombarder des objectifs militaires. On est en guerre, en effet. Donc, il raconte, en prime, il raconte un peu n'importe quoi. Et les combattants de l'islam, il y en a, et sur le terrain, sûrement. En Syrie, en Irak, ont combattu contre les troupes de la coalition. Ça, je veux bien le comprendre, je veux bien l'admettre. Mais lui, qui n'a même pas eu, encore une fois, le courage, comme ses compagnons, ses complices, dirons-nous, de se faire sauter ou d'aller au bout de ses certitudes, aller nous raconter aujourd'hui que circuler, il n'y a rien à voir, au fond. On a tiré, mais on vous en voulait pas vraiment. Honnêtement, c'est le discours d'une tête vide, ce qu'on dit d'ailleurs pour ceux qui l'observent en prison. Il se met sans doute à hurler pour essayer de gagner quelques camarades à la cause islamiste. En réalité, tout le monde dit qu'il n'a rien dans la tête et que c'est un pauvre garçon.
Éric Diard, député Les Républicains.
Ce que j'entends, je le confirme, c'est un artificier qui veut se faire passer pour un commanditaire.
Absolument.
Et même à un moment donné, il a une telle inculture qu'il a été au contact de deux islamistes assez férus. On a dû les éloigner parce qu'ils essayaient en train de lui transmettre une culture du djihad qu'il n'a pas.
Il n'est même pas capable de parler arabe,
paraît-il. En prison.
Oui. Il est à l'isolement, normalement.
Mais il est à l'isolement, mais à l'isolement, vous pouvez toujours communiquer par des fenêtres. Il y a un mécanisme du lacet où vous pouvez même transmettre des petits messages par les barreaux.
Il ne peut plus surveiller France, il envoie des messages à ses votre codétenu.
C'est, bon,
on le laisse faire, ça peut être
Eric
utile.
Terminé,
écoutez, Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire, a reconnu qu'il communiquait avec d'autres détenus, mais que ces communications étaient surveillées et qu'ils souhaitaient parfois, ça les intéressait de l'entendre parler avec les autres détenus.
Et rappelez-nous, vous aviez visité sa cellule en tant que parlementaire.
Oui, on a visité la cellule.
Il est détenu comme un chien, comme il le dit, ou pas ?
Non, parce que je vous signale qu'il a une cellule et les cellules qui sont attenantes ont été, les détenus ont été enlevés. Donc il n'est plus, il est complètement isolé, mais l'architecture Fleury-Mérogis fait qu'en face, vous avez d'autres bâtiments. Il y a peu de bâtiments. Il y a un bâtiment à Lille qui permet d'isoler des détenus radicalisés. Fleury-Mérogis ne le permet pas, comme la plupart des prisons. Et c'est ça qu'il faudra faire à l'avenir, construire des prisons qui permettent d'isoler ces individus fortement radicalisés.
Christian Proutot, un mot là-dessus ?
Oui, juste une chose, c'est que là, on parle des conditions de... C'est la question que vous posiez. Les conditions d'enfermement qu'il a... et qu'il a critiqué en disant qu'il était comme un chien. Bon, il est à l'isolement. C'est sûr qu'être à l'isolement, mais vu ce qu'il a fait après tout, que ça lui permettra au moins de réfléchir sur le prix de la vie, si tant est qu'il y réfléchisse. Ce qui me trouble malgré tout sur le passage à l'acte, c'est qu'avant, c'était pas... il s'est jamais fait remarquer, en dehors de ce qu'on évoquait,
entre les mailles du filet,
mais pas comme un musulman radical, c'est ça. C'est ce passage, tout d'un coup, à la cause, qui semble, pour moi, une supercherie, sauf qu'il a été tellement bien formé qu'il est allé jusqu'au bout de l'acte.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On a entendu tout à l'heure Robert Badinter, on reviendra sur ce sujet de la peine de mort, 40 ans, pile après son abolition. Avec cette question, la peine de mort va-t-elle revenir dans le débat politique ? À tout de suite, dans Punchline.
Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 40 ans pile après son discours historique à l'Assemblée nationale pour l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter s'est à nouveau exprimé ce matin, aujourd'hui, face aux députés pour rappeler l'importance de ce combat. On va écouter l'ancien garde des Sceaux rappeler la différence entre les démocraties et les dictatures.
La peine de mort qui a trop longtemps régné sur le continent européen et avec quel coût et quel symbole la peine de mort a disparu de notre continent. Seul sur les 47 États européens, la Biélorussie recourt encore à la peine de mort, c'est une illustration de plus qu'entre dictature et peine de mort, il y a un lien indissoluble.
Voilà pour ce combattant, évidemment, qui demande l'abolition universelle de la peine de mort. Le jour même où le débat sur la peine de mort est relancé, Éric Zemmour, interrogé ce matin sur cette question, s'est dit philosophiquement favorable à la peine de mort. Écoutez, on va en débattre après pour voir si cela choque, évidemment, certains d'entre vous.
Aujourd'hui, vous rétabliriez la peine de mort ou pas ?
Je n'hésite pas. Je ne suis pas au pouvoir. En plus, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant,
vous êtes favorable à la peine de mort, donc.
Philosophiquement, oui. Vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. On l'a aboli alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort. Je pense d'ailleurs que, vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Maintenant, c'était un symbole, la peine de mort. C'était le sommet de la hiérarchie des peines. Mais... Oui. Si vous voulez, c'est pas d'après moi quelque chose qu'on va faire tout de suite. Il y a d'autres priorités.
Bon.
Voilà, Éric Zemmour interrogé par nos confrères de RMC. Éric Diard, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait réagir ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous fait bondir ?
Ce qui me fait bondir, il est très hésitant. Il dit oui, mais non, mais on peut pas, mais pourquoi pas ? Il sait très bien au fond de lui qu'on peut pas rétablir la peine de mort, mais il sait très bien aussi, et il le dit lui-même, que les Français, surtout quand ils voient cette affaire avec Salah Abdeslam, évidemment, à mon avis, la part des Français qui sont favorables à la peine de mort, elle doit augmenter considérablement. Et c'est un petit peu logique. Donc, il joue un petit peu de ce que veulent entendre les Français. Quand on voit Salah Abdeslam, je suis sûr qu'une très grande majorité des Français disent « Ah, si on pouvait rétablir la peine de mort, on ne peut pas y revenir. » Et j'ai été, par contre, très sensible au discours de Robert Badinter, qui à son âge, ça a été le combat de sa vie. Alors je ne me rappelle plus, j'avais lu son ouvrage qui m'avait passionné à l'époque, et c'était l'avocat, il disait « Déjà, on ne peut pas maintenir la peine de mort parce qu'il y a toujours un risque qu'on guillotine un innocent. C'est arrivé aux États-Unis, c'est peut-être, on ne saura jamais, arrivé en France. Et à partir de là, on ne peut pas guillotiner un innocent, et c'est pour ça que je suis la peine de mort. Donc j'ai trouvé qu'il avait toujours la verve. Après, Éric Zemmour, il suit l'air du temps, il est populiste, ça ne m'étonne pas, quoi.
En même temps, c'est le journaliste qui l'interroge là-dessus. Ce n'est pas un sujet qu'il amène lui-même dans le débat. Hein.
Oui, c'est un sujet, mais je ne l'ai pas trouvé très à l'aise sur ce sujet.
Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, vous êtes surprise par les propos d'Éric Zemmour ?
D'abord, philosophiquement, je ne comprends pas, en fait, pardon, mais cette interview, j'ai trouvé qu'il n'était pas toujours très clair sur des sujets pourtant majeurs. Et puis par ailleurs, l'argument qui est de dire qu'une majorité de l'opinion publique est pour la peine de mort, c'est vrai, puisque son âge, c'était 85% notamment des sympathisants RN, je me suis replongée dans ce sondage de 2020, et 71% des sympathisants LR, c'est vrai. Mais François Mitterrand, pourtant, a accédé au pouvoir en 81 en s'opposant à l'opinion publique qui était majoritairement pour, puisqu'à l'époque, 6 Français sur 10 étaient pour. Et pourtant, il a été élu en promettant d'abolir la peine de mort. Donc, je pense que cet argument ne tient pas la route. Et puis par ailleurs, pardon, mais aujourd'hui, je trouve que Robert Badinter avait un très joli propos en disant, en fait, le premier des libertés, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté, et notamment à l'extrême droite, la première des libertés, c'est le droit à la vie. Et c'est vrai. Et c'est vrai, quand on voit, on en parlait tout à l'heure, on se demandait combien de pays, par exemple, aux États-Unis pratiquent encore la peine de mort. J'ai regardé, du coup, très rapidement, 27 pays sur 50. Aujourd'hui, 82 pays dans le monde pratiquent encore la peine de mort. Alors, c'est vrai que quand on voit... Je me souviens, par exemple, de Jordan Bardella, il y a quelques mois, même années, je crois,
Du
Rassemblement National, qui disait, qui est aujourd'hui président, donc par intérim, du Rassemblement National, qui disait, en fait, quand on arrivera au pouvoir, on rétablira la peine de mort par RIC, référendum d'initiative citoyenne. Oui, sauf que, pardon, mais comme le dit Éric Zemmour, c'est pas pour tout de suite, parce que faire un RIC sur la peine de mort, il faut une révision de la Constitution pour cela. Et si on faisait cela, ça voudrait dire aussi que la France sort de l'Europe. Il me semble que c'est un petit peu compliqué.
Et de tous les traités internationaux.
Je pense que c'est au-delà du fait que c'est un sujet qui, philosophiquement, je trouve extrêmement choquant, parce qu'on ne résout pas la violence par la violence. On la résout justement en essayant de réinsérer les gens. Deuxièmement, ça me semble pratiquement assez compliqué à faire.
Christian Proutou, vous êtes le fondateur du GIGN. Je vous ai vu beaucoup réagir au moment où Éric Zemmour parlait.
Oui, parce que d'abord, le terme de dire que philosophiquement, alors que la philosophie, c'est les questions qu'on se pose sur l'être humain et les réponses qu'on peut y apporter, serait de se dire qu'il serait d'accord avec l'idée complètement ignoble de tuer quelqu'un de la même manière pour le punir de la même manière que lui aurait commis l'acte, C'est insensé. On ne peut pas considérer qu'un pays évolué fasse la même chose que ce qu'il reproche à la personne qu'il juge. J'ai eu l'honneur de créer une unité qui a dû, dans ses missions, parce qu'il y avait un crime, le GIGN, un crime flagrant, a dû prendre la décision pour sauver des vies. Donc, dans ce qu'on appelle la défense, pas la légitime défense, la défense légitime et l'instantanéité, parce que le crime est en flagrant, si vous ne l'arrêtez pas, il va se commettre. Je traîne ces morts, c'est des boulets aux pieds. Venir parler de ça, genre discussion du commerce comme si c'était rien, sans oublier que tout ce que cela représente au niveau philosophique pour nos sociétés, toute l'évolution de nos sociétés, c'est justement ça. C'est d'arriver à avoir ce respect de la vie qui fait qu'on se bat pour que des gens qui ne font pas attention à cette vie soient mis hors d'état de nuire. Mais si comme réponse on apporte qu'on les détruit de la même manière qu'ils veulent nous détruire, eh bien on fait le contraire de ce que l'on défend. Okay. Et ça, je le considère comme insupportable.
C'est-à-dire que vous, à chaque fois que vous avez dû ôter la vie pour empêcher des crimes de se dérouler, ça a été une décision difficile à prendre, qu'aujourd'hui encore vous questionnez?
Mais absolument, je me questionne toujours. Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Est-ce que les fractions de secondes que j'aurais pu gratter dans l'opération en mettant mes hommes dans une autre position, est-ce que j'aurais pu le faire ou pas? Et la réponse, malheureusement, pour moi, est non. Ce qui fait que la décision que j'ai prise, elle est toujours là. J'ai fait disparaître ces vies et j'en suis responsable. Mais qui je suis pour pouvoir faire ça?
Christian Proutot, Éric Zemmour parle aussi des opérations menées par François Hollande, les opérations HOMO, comme on les appelle, d'aller tuer, frapper les terroristes sur le théâtre irako-syrien. Il dit, mais en fait, elle a été rétablie de facto, la peine de mort. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Je ne suis pas d'accord parce qu'elle s'exprime dans un complexe de conflit. C'est-à-dire que là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au crime flagrant. Il y a le flagrant délit et le crime flagrant qui va se produire. Il n'est pas produit, mais il va potentiellement se produire. La question du chef de l'État, à ce moment-là, elle est difficile. Et il faut se rendre compte qu'elle met en cause les gens qui vont exécuter l'ordre. Il faut penser aussi à eux.
Est-ce que... Ceux qui vont tuer.
Voilà, ceux qui vont tuer. Est-ce qu'au moment où il se pose la question, ce qui lui a été présenté, de dire, ben voilà, il faut éliminer cet homme parce qu'il va commettre ça. Ça, c'est une réponse qui peut être discutable, mais pas beaucoup. Si c'est un peu comme l'a fait avec Ben Laden, c'est discutable. On voit le résultat d'ailleurs sur d'autres aspects. Parce que si c'est exprimé au nom d'une vengeance, on retombe dans ce que je disais tout à l'heure.
Et,
absolument.
Jean-Claude Dacier.
La difficulté quand même, c'est qu'une majorité de Français, j'ai oublié les chiffres que tu as cités.
85% des sympathisants RN et 71%
des partisans du Front National. Ouais. Et puis, oui, sont quand même favorables au maintien ou au rétablissement, pardon. De la peine de mort.
Pour être tout à fait honnête, il y avait aussi dans ces sondages une augmentation de la part aussi des partis de gauche, hein, des sympathisants de partis de gauche, une augmentation assez forte, pour être tout à fait honnête.
Alors, les temps sont devenus tellement difficiles et tellement violents que ça peut se comprendre. Quand on voit ce qui se passe, bon, l'affaire Ben Laden, c'est jamais qu'un assassinat programmé, on peut comprendre.
Tu as choisi le bon terme.
Ah oui, c'est un assassinat programmé. Guantanamo, c'est pas non plus un monstre du respect du droit américain. Quand on a sous les yeux et en l'écoutant, Monsieur Salah Abdeslam, on parlait il y a un instant de ses propos, j'imagine chez les Français la réaction que ça suscite. Tu le disais tout à l'heure. Moi, je suis comme Zemmour. Je suis pas comme Zemmour. Je pense qu'on ne peut pas, de toute façon, rétablir la peine de mort et que ce serait extrêmement compliqué. Je suis même pas sûr que ça vienne dans le débat. Mais Éric Zemmour, j'ai bien noté ses derniers mots. C'est ce qu'on va faire, mais pas tout de suite.
Oui, mais si je peux me permettre, pardon,
on ne pourra pas le faire tout de suite. Se déclarerait candidat, que ce serait à peu près la même chose. Tout ça pour dire, j'en conclue, il faut résister à cette envie de l'exemplarité de la peine de mort qui n'existe pas. Mais honnêtement, reconnaissons que quand on écoute M. Salah Abdeslam, qu'on voit des assassins d'enfants ou de femmes seules, âgées, on a parfois du mal, mais il faut résister.
Alors, question proto, et après Tatiana.
Oui, juste pour répondre à mon ami Jean-Claude, et il sait qu'on partage sur l'essentiel la même pensée. Mais un État et ceux qui nous représentent et nous dirigent doivent être au-dessus de tout le monde. Que tout le monde pense, qu'il y ait une majorité qui pense qu'effectivement, il faudrait remettre la peine de mort, c'est une chose. Mais, et ça a été la force de Badinter et de François Mitterrand, quand ils ont décidé, c'est un moment de décider pour nous dire, c'est pas digne de nous. Et inconsciemment, beaucoup de gens le pensent. C'est pas digne de nous.
Il y a le plan en effet philosophique. Est-ce qu'on résout la violence par la violence? Non, il ne me semble pas que ce soit la bonne voie. Et puis par ailleurs, le plan pratique aussi. Est-ce que ça va empêcher des terroristes d'aller se faire sauter? Si on leur dit vous allez être condamné à la peine de mort, est-ce que Salah Abdeslam aurait, si sa ceinture avait marché, est-ce qu'il l'aurait pas actionné en considérant que sinon il pouvait être condamné à mort? Non, bien sûr que non. Est-ce que par ailleurs, ça fait baisser la criminalité? Aucune étude le prouve. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique tout ça et qu'on mette sur la table tout cela et après on en discutera. Mais je pense que vraiment, ce débat n'a pas lieu d'être et encore moins à une période où il y a déjà une violence de toute façon symbolique dans cette société sociale, sociétale extrêmement forte.
Ringard, député Les Républicains.
Il ne faut pas confondre, je pense, la peine de mort, qui est un jugement, et l'action de neutraliser. Si nous n'avons pas sur le banc des accusés certains individus, c'est que la plupart ont été neutralisés par les Américains sur les théâtres d'opération en Syrie. Et non pas pour vengeance pour Bataclan, parce que ces personnes-là pouvait continuer à agir et à préparer des actes contre la France, contre les États-Unis, contre les États alliés. Donc, je pense que mélanger l'action de neutraliser, qui permet justement d'empêcher les personnes de récidiver et de commettre à nouveau des actes, des attentats, ce n'est pas la même chose qu'un jugement qui prononce la peine de mort.
Mais ça pose aussi la question de l'exemplarité des peines.
Ben voilà.
Et le côté incompressible de certaines peines, notamment la perpétuité. Il y a très peu de gens qui font la perpétuité. Je crois que le plus vieux détenu de France à 80 ans, il s'appelle Marcel Barbeau, il est en prison depuis 76, donc il a fait 45 ans de détention. Mais pour cet exemple-là, ils sont quelques-uns, il y en a tant qui ne font pas la perpétuité. Et ça, ça pose question.
C'est la question qui se posera pour Salah Abdeslam, parce que il ne prendra pas plus de 30 ans.
Et
la perpétuité en France, malheureusement, elle est actuellement de 30 ans. Et pour tous les Français, 30 ans sera insuffisant par rapport aux actes et par rapport à ses dires. Ils diront, cette personne ne devrait jamais sortir de prison, c'est ce que pensent la plupart des Français.
Jean-Claude Dacier.
Ce qu'on disait notamment hier avec Mme Béatrice Brugère, c'est que cette suppression...
Magistrate.
Cette suppression de la peine de mort, très bien, s'est accompagnée en France d'une, comment dire, d'une philosophie, c'est ce qu'elle nous expliquait, qui va contre l'enfermement et contre la prison et sa pédagogie dangereuse. Et donc, vous avez au total un sentiment de l'opinion qui considère qu'il y a la peine de mort qui a disparu, certes, mais il y a aussi que, comme le disait Laurence, la plupart des peines sont ou pas prononcées, ou peu appliquées, et que globalement, on a un système qui fabrique comment appeler, un manque cruel. La sanction n'existe plus, ou vraiment elle n'existe que pour les cas les plus spectaculaires, assassins de vieilles femmes ou d'enfants ou autres. Mais c'est peut-être ça.
Ou de policiers.
Par exemple, Xavier Bertrand tout à l'heure disait que tout agresseur.
On va l'écouter tout à l'heure.
Ah bon, l'écouter. Tout agresseur de policiers, au minimum un an de prison. Il y a ce besoin et il y a cette envie. Dans l'opinion majoritairement, d'avoir un système judiciaire qui pratique l'exemplarité de la sanction.
Christian Proto et après Rigard.
Oui, alors, l'exemplarité de la sanction, je n'y crois pas, je le redis, ça n'existe pas. Par contre, que les gens payent pour ce qu'ils ont fait avec une vraie peine que l'on a décidée avant, oui. Voilà, mais l'exemplarité...
C'est ce que je voulais dire, on est d'accord.
On est loin de la peine de mort, Dieu merci.
Eric Bien, les Républicains.
Deux choses que défend Xavier Bertrand, c'est, pour ce type d'individu, moi ça ne me choque pas, une peine de 50 ans, ça ne me choque pas, parce qu'il est très jeune, donc je pense qu'à 55 ans, à 60 ans, je ne l'imagine pas ne plus être dangereux. Deuxièmement, évidemment, les peines effectives, et peut-être mettre en place des peines minimum, parce que le juge a la libre appréciation, mais je pense qu'il faut mettre des peines minimum, parce que de temps en temps, nous, les législateurs, on dit, oh ben tiens, on va mettre 7 ans, on va passer à 10 ans. gens. Il y a des gens qui ricanent, des législateurs qui nous disent, et des juristes qui nous disent, mais ça sert à rien. Vous pouvez mettre 7, 10 ans. Le juge, si à partir de là, vous, il met un an, vous aurez un an, et la personne ne fera pas la prison.
Le juge pour les délits.
Christian
Proutot ? Pour les délits. Sinon, c'est le jury populaire. Hein.
Tatiana Renard-Barzac.
La position des candidats, parce qu'en effet, Xavier Bertrand dit, en fait, il y a une peine maximale, il faut qu'il y ait aussi une peine minimale. Et ce qui me semble tout à fait normal.
Ça fait partie.
Mais en fait, toutes les mesures, regardez, même les candidats de gauche se positionnent par rapport à ça. Fabien Roussel, par exemple, du Parti communiste, a fait des propositions assez inédites pour son parti en termes de sécurité. Notamment, par exemple, sur les 30 ans de peine pour quelqu'un qui s'en prendrait à quelqu'un de l'autorité de l'État. Donc, c'est vrai que ça sera évidemment au cœur du débat. Et c'est peut-être ça la clé. C'est en effet, au-delà de la surpopulation carcérale, du problème de place de prison, dont d'ailleurs Xavier Bertrand a parlé aujourd'hui, en parlant de 80 000 places, il faut en construire 20 000 de plus pour arriver à cet objectif-là. Il y a aussi, évidemment, ce que vous disiez, la question de l'effectivité des peines. C'est-à-dire que quand on fait un crime ou un délit et qu'on sait qu'on va pouvoir sortir très vite de prison, évidemment que ce n'est pas dissuasif. Donc ça, c'est évidemment l'une des clés au cœur de tous les programmes des candidats à cette présidentielle.
On fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On écoutera Xavier Bertrand qui demande des peines minimales obligatoires pour les récidivistes. À tout de suite.
Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans nos débats sur CNews et sur Europe 1. Des peines minimales obligatoires pour les récidivistes, c'est la proposition qu'a fait aujourd'hui Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, candidat à la présidentielle, était dans son fief de Saint-Quentin. Écoutons-le.
Je mettrai aussi en place des peines minimales obligatoires pour les récidivistes et pour les crimes et délits les plus graves. À titre d'exemple, tous ceux qui seront reconnus coupables d'agression sur les forces de l'ordre, sur les pompiers, sur les magistrats ou sur les maires, seront passibles d'une peine minimale d'un an de prison ferme avec comparution immédiate et mandat de dépôt à l'audience. Je veux que l'on prenne bien la mesure de la révolution que je propose en la matière. Aujourd'hui, la loi prévoit une peine maximum. Demain, je veux que la loi fixe aussi un minimum. Le juge pourra aggraver la peine, mais il ne pourra plus descendre en dessous de ce minimum. En cas de crime ou de délit visé par une peine minimale obligatoire, la sanction sera désormais certaine. Une modification constitutionnelle est nécessaire. J'y suis prêt, les Français aussi.
Voilà donc pour ces mots de Xavier Bertrand. Christian Proutot, il a sorti cela d'ailleurs de la majorité pénale qu'il veut abaisser à 15 ans. Ça veut dire qu'à 15 ans, on encourra la même peine qu'à 18 ans. Est-ce que ces propositions vous conviennent, vous qui êtes le fondateur du GIGN ?
Alors, concernant la minorité pénale ou la majorité pénale, oui, qui passera à 15 ans, je pense que c'est encore. Moi, je trouve que c'est très jeune encore. Par rapport
on
au
n'est
fait
pas le même à 15 ans qu'à 18 ?
On n'est pas le même à 15 ans qu'à 18.
Il n'y a pas des délinquants de 15 ans qui sont
Ah mais ça, c'est un
endurcis.
C'est un autre problème. Que par contre, on est par rapport aux jeunes qui font de la récidive, c'est ce qu'il évoque, on puisse à ce moment-là considérer qu'ils perdent, dans le cas d'une un certain type de récidive, ils perdent la possibilité de cette majorité pénale, oui, parce que ça prouve qu'ils ont replongé. Ça me paraîtrait plus logique. Maintenant, il faudra prendre la décision et voir qui effectivement, la prendra, cette décision. Mais, effectivement, le fait qu'il récidive sur quelqu'un qui a bénéficié du fait qu'il était mineur devrait faire perdre cette exception de minorité.
Éric Diard, vous êtes des Républicains. Vous êtes d'accord avec ça ? Laisser la majorité pénale à 15 ans ?
Bien sûr.
Et peine minimale pour les récidivistes ?
Bien sûr. Déjà, à 15 ans, parce que les gosses de 15 ans, c'est plus des gosses, quoi, maintenant. Vous avez vu des véritables délinquants. Sur Marseille, à 15 ans, vous avez des caïds qui ont 15 ans maintenant, qui sont formés comme des hommes. Je veux dire, voilà, l'évolution fait que maintenant, ce sont à 15 ans, on est un homme. Alors, je ne dis pas pour tout le monde, mais ces délinquants sont des hommes. Donc, je suis.
Mais les juges peuvent déjà écarter l'exception de minorité.
Oui.
Donc, ça sert à quoi ?
Mais ça sert à le généraliser parce qu'on est toujours dans une appréciation des juges. Et donc, moi, l'appréciation des juges, elle est constitutionnelle. Mais enfin, à un moment donné, il est arrivé que sur des jugements, un juge estime dire « Oh ben non, on sort l'excuse de minorité » alors que ça ne s'appliquait pas. Moi, je pense que maintenant, on a besoin d'une plus grande sévérité. Moi, à travers ce mandat, aussi bien sur la sécurité que sur la radicalisation, j'ai fait des propositions et souvent on m'a dit attention, attention à la Constitution. Donc il va falloir changer la Constitution. Si on veut plus de rigueur, si on veut plus d'autorité, si on veut plus de sévérité, on doit impérativement changer notre Constitution.
Jean-Claude Dassy, tous les candidats de la primaire de la droite, si tant est qu'il y ait une primaire, on verra cela rapidement, vont très à droite, là, sur tous les thèmes, immigration, sécurité, majorité pénale à 15 ans.
S'il fallait résumer ou essayer de résumer ce qu'a dit Bertrand ce matin, c'est un peu ce que Giuliani a fait à New York il y a quelques années, c'est la tolérance zéro. Fin de l'impunité, il dit l'heure est grave, il répond évidemment au président de la République qui a parlé hier matin, il dit l'heure est grave, si nous ne faisons rien, les gens vont finir par se tirer les uns sur les autres et on finira par la guerre civile. Ça suscite quelque part les arguments qu'on entend parfois chez Éric Zemmour. Donc c'est un papier où effectivement il durcit considérablement l'appareil répressif, il considère que la sanction qui est donnée aujourd'hui globalement par le système est insuffisante et qu'il faut y mettre un terme. Alors, il y aura débat, il y aura sans doute discussion avant qu'on sache qui représentera les Républicains dans quelques mois. Mais
il n'est plus Républicain. Hein,
oui,
le rappelle,
alors je
ne
sais plus s'il y est ou il n'y est pas, mais il ne veut pas les faire perdre.
Il
ne
veut pas de la primaire.
Il n'est plus Républicain, mais j'ai dit jamais qu'il les ferait perdre. Non, en réalité, il appartient toujours à la famille, qu'il le veuille ou non. Et il sait bien qu'il ne peut pas être le diviseur de sa famille. Donc, il ne fera pas n'importe quoi. Bon, okay. Là, je pense qu'il a marqué un point.
Tatiana Renard-Barzac, c'est la surenchère à droite dans les propositions sécuritaires.
Il y a une radicalisation très forte des débats. Enfin, c'est indéniable, évidemment, qu'on voit. Le meilleur exemple est quand même Michel Barnier, européen convaincu, qui, quand même, il y a quelques jours, expliquait qu'il faudrait peut-être retrouver la souveraineté juridique et peut-être sortir de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, bien sûr qu'il y a une surenchère. Quand on voit Éric Ciotti qui nous explique qu'il va falloir arrêter le regroupement familial et revoir le droit du sol, quand on voit que Valérie Pécresse nous dit que tous les délinquants étrangers dans des charters, quand on voit... Déjà, oui, bien sûr, toutes ces mesures-là participent d'une surenchère. Et je pense que la non-candidature ou la candidature potentielle d'Éric Zemmour aide évidemment à ce débat-là qui se droitise à droite, puisque, comme tout le monde sait, Éric Zemmour, a priori, qu'on voit dans les sondages, vient plus faire mal, en fait, à l'électorat LR, puisqu'il vient prendre beaucoup chez les fionistes, plus que chez Marine Le Pen. Et juste dernière chose, l'impunité zéro pour le petit clin d'œil, c'était quand même un des slogans de François Fillon. Donc Xavier Bertrand vient aussi piocher à bon escient, juste là où il faut aller piocher, dans un gisement électoral.
Vous évoquez les sondages. On a un sondage Harris pour le magazine Challenge qui, effectivement, est assez parlant parce qu'il met donc Emmanuel Macron à 23%, Marine Le Pen à 19%. Et derrière, il y a Xavier Bertrand à 14%, Jean-Luc Mélenchon à 11% et Éric Zemmour 10%. Est-ce que c'est pour ça, Éric Diard, que tout le monde en rajoute un peu à droite sur ces propositions sécuritaires ?
Non, parce que qu'est-ce qui fait que y a les discours, ce ne sont pas les discours, ce sont les faits. Sur ces plateaux, vous l'entendez, les violences envers les policiers, les violences envers les dépositaires de l'autorité publique augmentent. Les trafics de drogue, vous le voyez à Marseille, ça a toujours existé. Mais maintenant, on se tue à 14, à 15 ans. Donc, on est dans un monde de plus en plus hyper violent et tout le monde se dit, commence à tirer le frein à main, à dire, attention, maintenant, il faut monter... le cran, monter d'un cran sur, parce que sinon on voit très bien qu'on ne s'en sortira pas. Et j'aime bien l'exemple de Giuliani pour New York, c'est parce que New York était devenu vraiment un coupe-gorge que Giuliani a tiré le frein à main et a pris des mesures qui ont considérablement changé cette ville, où il y avait des quartiers où on ne pouvait pas y mettre les pieds. Donc notre pays fait face à de l'hyperviolence, et face à cette hyperviolence qui est, à mon avis, bien antérieure à la candidature ou non-candidature d'Éric Zemmour, qui est un secret de polichinelle. Donc, face à cette hyperviolence, il faut, les Français, attendre non seulement des discours, mais surtout des actes.
Oui, mais ils se disent que vous qui avez été au pouvoir aussi, peut-être, n'avez pas tenu tous les engagements que vous aviez pris à l'époque.
Oui, mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, on a pris encore un cran dans la violence.
Tatiana Renard-Barzac, qui a pris Christian Poutou. Il y a des Bertrand et de Valérie Pécresse qui ont quitté votre parti, justement en disant qu'il y avait une dérive douatière trop importante. À l'époque, je le rappelle, c'était Laurent Wauquiez qui dirigeait le parti. Donc c'est vrai quand même qu'on sourit un peu, c'est un peu croustillant quand on voit cela. Alors je suis d'accord avec vous, c'est vrai que la société, aujourd'hui, on est confronté à une hyperviolence. Mais est-ce que ça justifie d'être dans une surenchère, dans des propositions qui pourraient peut-être être plus décentes et moins accréditées, certaines thèses qui, jusqu'à encore il y a quelques mois, faisaient se boucher le nez à certaines personnalités politiques? Peut-être que c'est un peu compliqué. Voilà.
Il faut le rappeler, vous avez raison.
Il n'y a pas de surenchère. Éric
Diard, Les Républicains.
Oui, moi, il n'y a pas de surenchère parce que, regardez, ce matin, Xavier Bertrand fait un discours sur la sécurité, mais n'a pas lié la sécurité à l'immigration. Donc, s'il avait lié à l'immigration, on aurait pu parler de surenchère.
C'est vrai, pourtant, dans votre famille, certains ont fait ce lien depuis plusieurs mois déjà.
Alors, Christian Proto, un mot là-dessus.
Oui, mais moi, ça me surprend toujours qu'on soit toujours en aval. À chaque fois, je pose le problème, on est en aval, parce qu'effectivement, il y a tous les moyens juridiques existent. Donc il faut aller jusqu'au bout de l'exercice, les appliquer et faire en sorte que les décisions qui sont prises en matière de punition soient effectives. Donc ça, le faire. Mais il y a toute la problématique en amont. Ce qui se passe en avant, en aval, c'est en amont que le problème démarre. Et c'est pas simplement en mettant des prisons qu'on résout les problèmes sociaux, les problèmes où l'État n'est plus présent, les problèmes où on a laissé faire certaines choses, les problèmes où on a réduit les effectifs de la police et la gendarmerie, les problèmes, allons jusqu'au reste, où on a considéré, je pense à la médecine en particulier, puisqu'on en a fait le triste constat avec la pandémie, où tout compte fait, on a considéré que ce qui tuait l'État, c'était les fonctionnaires. Et au moment où on a diminué tout ça, il nous arrive en boomerang le fait qu'il y a des choses qui nous impactent beaucoup plus actuellement que ça nous impactait avant, et on voudrait avoir la réponse immédiate. Et on pense que la réponse immédiate, c'est d'enfermer tout le monde. Moi, je pense qu'il y a une erreur.
Il y a
l'effectivité et il y a la rapidité des peines, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En effet, quand un mineur commet un délit et se retrouve à être jugé lorsqu'il devient majeur, lorsqu'on voit qu'il y a des années qui s'écoulent entre c'est quand même fou. Et c'est vrai que parmi les propositions, la comparution immédiate me semble quand même être une bonne solution pour résoudre aussi ce
Allez, ce qui est vrai, c'est que la droite n'a pas tenu ses engagements. Elle les a même reniés par rapport à certains discours qu'on entendait à l'époque Chirac. Elle est revenue complètement en arrière pour des raisons dont on pourrait débattre. L'intérêt de la candidature Zemmour, qui ne fait plus de mystère pour grand monde...
Il n'est pas candidat officiellement.
On verra bien, il n'est pas candidat officiellement. Néanmoins, il impose déjà un certain nombre de thèmes à cette campagne. Je ne sais pas si la peine de mort en fera partie. Probablement pas. Mais sur les problèmes de sécurité, ce n'est pas un hasard si le président de la République a fait « tu as raison ». Hier, un discours vis-à-vis de la police, il a essayé de gommer les petites erreurs qu'il avait pu commettre dans le passé et a proposé quelque chose de global pour la police. Mais ça ne va pas suffire, parce qu'il y a aussi le problème de l'immigration. Barnier en a commencé à en parler. Zemmour, c'est son thème central et principal, et il lie, en effet, pour partie, les phénomènes non contrôlés de l'immigration avec les problèmes de sécurité que nous connaissons. Donc, le débat va être animé, et chacun va devoir prendre ses responsabilités. C'est pas plus mal.
J'aime bien remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi on dit beaucoup « Ah, Sarkozy n'a pas été à la hauteur en matière de sécurité ?» C'est vrai. C'est vrai.
La réduction des effectifs.
Mais pourquoi il y a eu la réduction des effectifs ? Parce que, et il y a eu aussi cette crise financière et économique où à un moment, la France a failli être en faillite. Il y a trois banques françaises qui, en une nuit, ont été sauvées. Donc, c'est ceci qui a entraîné cela. Pour autant, je vous rappelle quand même que le bilan de Nicolas Sarkozy, la délinquance à la fin de son mandat, même s'il n'avait pas rempli tous ses objectifs, avait baissé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
C'est toujours intéressant de regarder rétrospectivement, mais toujours aussi effrayant, parce que si on se penche par exemple sur le candidat de François Fillon en 2017, il proposait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été un petit peu délicat d'être là-dedans. Mais c'est vrai que pour répondre à ce que disait Jean-Claude, c'est vrai que d'abord, je pense qu'il y a en fait, la candidature Zemmour, elle est intéressante parce qu'elle force Marine Le Pen à se positionner sur des thèmes qui étaient des thèmes de prédilection ou pas d'ailleurs, ou des thèmes gênants pour elle, nota bene par exemple la peine de mort. Et par ailleurs, ça la force aussi à faire une campagne de premier tour et pas de second tour. C'est-à-dire qu'elle s'était déjà installée dans un fauteuil de second tour face à Emmanuel Macron. Et malheureusement, elle se retrouve en fait à devoir courir même parfois derrière certains thèmes. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette dynamique.
On va écouter Michel Barnier, parce que vous l'avez évoqué, Jean-Claude. Il était mon invité ce matin sur CNews. Il a parlé des fraudes de carte vitale, mais il a aussi parlé d'immigration. Écoutez ce qu'il propose sur ce sujet.
Je vais consulter le peuple. Général de Gaulle disait le juge suprême, c'est le peuple. Et moi, je le pense. Et donc, nous allons faire un référendum dont les termes seront proposés aux Français au premier tour de l'élection législative au mois de mai. Donc chaque candidat qui soutiendra la majorité, le nouveau président, devra dire s'il soutient ou pas ce référendum qui sera organisé au mois de septembre. Et nous allons dans ce référendum proposer de donner au Parlement le droit de dire les quotas, combien de personnes étrangères nous voulons accueillir. Et nous allons aussi faire un bouclier constitutionnel pour avoir cette souveraineté juridique.
Voilà, c'est ce que dit Michel Barnier. Il ne veut pas sortir de toutes les instances européennes comme la Cour européenne des droits de l'homme, mais il veut récupérer une partie de souveraineté nationale sur la France.
On peut difficilement lui donner tort. Mm-hmm. Et il considère que c'est un problème de souveraineté nationale, ô combien. Mm-hmm. Donc là-dessus, je pense qu'il aura le point de vue.
Tatiana Renard-Barzac et
d'abord, évidemment, il sort sur un thème qui, à la faveur de ce Covid, est extrêmement important dans le débat public, qui est évidemment la question de souveraineté, hein, qu'elle soit économique, qu'elle soit en effet sociale, qu'elle soit sanitaire, etc. Et par ailleurs, je pense que stratégiquement, quelque chose d'intéressant, c'est que, tout à l'heure, j'évoquais le cas Laurent Wauquiez, je pense que Michel Barnier s'intéresse aussi à une frange des Républicains qui est encore très attirée par le candidat, non-candidat, puisqu'il ne se présente pas à la primaire, Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez a dit beaucoup de bien de Michel Barnier.
Bien sûr. Certains même évoquent d'ailleurs la tentation d'un ticket entre les deux. Et donc, c'est vrai que peut-être que ces thèmes-là, très à droite, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à voir Michel Barnier se déporter comme ça. C'est-à-dire qu'un moratoire de 3 à 5 ans sur l'immigration, ou alors la question de la souveraineté juridique remise en cause face à l'Europe, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Mais dans, aujourd'hui, la tonalité des débats et encore une fois, dans les contingences électorales, malheureusement, il faut bien le dire, et ceux qu'on veut toucher aussi au sein de son parti, évidemment que les lignes bougent.
Éric Diard, les Républicains.
Oui, c'est, le Michel Barnier n'est plus le même. Quoi. C'est plus le Michel, moi, j'ai connu un Michel Barnier quasiment presque fédéraliste, et aujourd'hui, je l'entends.
Il n'a plus l'Europe très... fonctionner de près.
Oui. Il a plongé dans les arcanes de l'Europe.
Il a vu les faiblesses.
Il défend la souveraineté.
Il veut être président, c'est pas
Christian
pareil.
Poteau. Non, je ne suis pas d'accord.
Mais si.
Alors, Christian Poteau.
Non, moi, je connais Michel. On s'est connus pendant. On a travaillé ensemble pendant quelques années. Je pense que ça ne lui plaira pas que je dise ça, c'est de l'opportunisme. Et je lui dis, il était meilleur quand il était à l'Europe qu'en étant candidat. Mais il joue son rôle, ça me choque.
Il a vu les faiblesses du fonctionnement de l'Europe, du poids administratif d'une administration européenne non élue.
Il a bien défendu l'Europe.
Qui fait à peu près ce qu'elle veut. Il a fait ce qu'il fallait sur le Brexit. Il considère. Il n'est pas anti-européen. Il considère aujourd'hui que tel que fonctionne le système européen à Bruxelles, ça ne peut pas marcher. Et il a raison. Ça ne marche pas sur l'immigration, ça n'a pas marché sur le développement industriel. Il y a beaucoup de reproches à faire à l'Europe. C'est pas pour autant qu'il est devenu anti-européen. C'est une Europe qui doit se réformer, elle aussi.
Alors, Éric Diard.
Il y a un débat qui est récurrent sur l'immigration, où Barnier est assez proche de Xavier Bertrand, qui a parlé à Nîmes. Il serait légitime que chaque année, l'immigration, les quotas soient discutés au Parlement et que ça soit l'Assemblée nationale et le Sénat qui décident de la politique migratoire.
Absolument.
Alors, Tatiana Renard-Barzac, un dernier mot là-dessus.
Déjà, ça serait que l'Europe ait le courage de régler eux-mêmes leurs problèmes d'immigration et de ne pas déléguer à d'autres pays extérieurs, notamment la Turquie, le problème des flux migratoires. Absolument. Ça, c'est encore une autre question. Et deuxièmement, pour répondre aussi à ce que vous disiez, je note juste au passage que la présidence française de l'Union européenne commence en janvier. On sera à cheval sur la présidentielle. Ça va être croustillant.
Juste une remarque sur ce problème de l'immigration qui semble être un élément essentiel des différents discours que l'on entend. Moi, l'immigration qui me pose problème, c'est celle qu'on ne contrôle pas. Parce que l'immigration.
Celle des quotas.
Voilà, celle des quotas. Régulière. Alors, parler des quotas, à mon avis, c'est
absolument.
Pas le bon problème.
Allez, merci à tous les quatre de ce débat dans Punchline. On y reviendra évidemment dans les prochains jours sur nos antennes CNews et Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Laurence Ferrari sur Europe 1.